Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Elisabeth, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes repartis en promenade, mais d'abord, peut-on faire un court rappel de l'évolution du jardin abordé lors des deux précédentes émissions ?
Oui, on peut faire ça, puisque le jardin effectivement évolue au fil des siècles. Nous avions abordé le jardin médiéval, et plus particulièrement le jardin médicinal du Moyen-Âge. Et par la suite, sous l'influence des jardins de la Renaissance italienne, dont nous n'avions pas parlé, mais nous avons parlé de l'influence sur le jardin de Versailles, influence qui venait bien sûr de l'Italie. Les jardins de Versailles créés par le nôtre dans un style appelé à la française au cours du XVIIe siècle. L'architecte y avait en quelque sorte remplacé le jardinier. Tout était pensé, structuré et la mode était au jardin régulier, des allées rectilignes, des parterres de gazon, des taupières qui étaient ces buis taillés sous différentes formes, des bosquets complexes et des jeux d'eau.
Et que nous apporte alors le XVIIIe siècle, siècle des Lumières en matière de jardin ?
Alors, si le XVIIe siècle fut sous l'influence italienne, on peut dire que le XVIIIe siècle et la première partie du XIXe siècle furent sous l'influence anglaise. Au XVIIIe siècle, le moment est venu où le peintre supplante l'architecte. Succédant au classicisme du siècle précédent, le jardin paysager, dénommé aussi parc à l'anglaise, apparaît au XVIIIe siècle. Les Anglais Kent et Bridgman ont édicté les grands principes de cette nouvelle conception basée sur le respect de la nature et la composition du paysage naturel. N'oublions pas qu'à Versailles, on avait complètement aplani les sols, qui étaient des sols d'ailleurs pas très propices à un jardin au départ. On avait tout aplani. Là, on est complètement dans une démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va profiter des variantes du terrain pour les utiliser sous forme paysagère, de façon à donner un aspect très naturel au jardin. Plus du tout un jardin dirigé, planifié, on n'est plus du tout dans cette démarche-là. C'est en effet au siècle des Lumières que le jardin paysager se développe en France. Et son allure est faussement naturelle parce que effectivement, cette nature qu'on veut à profusion, on va quand même la diriger sans que ça en ait l'air en définitive. On la veut faussement naturelle et sauvage. Et c'est une source d'inspiration pour nombre de peintres et d'écrivains. En France, le jardin paysager subit l'influence du courant naturaliste, conduit notamment par Jean-Jacques Rousseau. Et les peintres paysagistes, Claude Lorrain et Nicolas Poussin. Donc on voit là que cette évolution du jardin va influencer l'art pictural et l'écriture aussi, avec un personnage qui pour nous à Bourgoin compte beaucoup, Jean-Jacques Rousseau, puisqu'il est passé à Bourgoin, on en reparlera.
Et lui était déjà très influencé par ce genre de jardin. Il ne voulait plus de ces jardins comme à Versailles où, disait-il, lui et d'autres, on s'y ennuyait à la longue.
Oui, on ne voulait plus de lignes droites, on ne voulait plus de choses très, très cernées, très délimitées. On allait vers le libre développement des plantes ou le faussement libre. Oui, parce qu'on rapportait au XVIIIe siècle, les gens voyageaient beaucoup Et lorsqu'on partait en voyage ou dans d'autres pays d'Europe ou même plus loin, on rapportait des plantes. Plantes ou arbres et qui seraient par la suite plantées dans ces fameux parcs paysagers et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines très belles demeures qui font effectivement un écrin à de très beaux châteaux. Et tout ça dans une sorte de démarche naturelle. Avec des allées sinueuses, des lacs entourés de verdure, de vastes pelouses ponctuées de bosquets, tout ça, l'air de rien, d'une nature fort agréable, où l'on allait se promener, mais beaucoup plus. On avait aménagé des terrasses pour pouvoir y manger, on passait du temps au jardin. Et on s'intéressait aux plantes. On s'intéressait aux plantes dont on étudiait la période de floraison et l'on constituait ce que les Anglais ont appelé les mixed borders, c'est-à-dire qu'on constituait des plates-bandes en étudiant les périodes de floraison et pour que ces plates-bandes soient fleuries toute l'année. C'était assez intéressant et judicieux.
Intéressant et judicieux, et il ne s'arrête pas à des plantes, je veux dire, ils viennent dans les plantes un peu de vulgarisation ou que l'on peut avoir trouvé plus facilement.
Oui, eh bien c'était un savant mélange en fait, c'était un savant mélange de plantes exotiques dans le sens où elles venaient parfois de très loin. Des plantes qui pouvaient venir d'une expédition en Himalaya ou d'Inde ou d'ailleurs. C'était et de plantes à la fois très simples, très locales et qui se côtoyaient dans des bosquets ou dans des plates-bandes sinueuse, j'insiste, parce qu'on n'est plus du tout dans des allées droites, rectilignes. On ne veut pas offrir une vision
globale.
On se souvient, pour Versailles, on voulait la vue panoramique du jardin. Plus du tout. On est là dans des déambulations un peu poétiques, dans l'intimité de la nature, je dirais, sous les frondaisons. Et pour arriver à un moment devant un point de vue, par exemple, on ménageait ces points de vue quand même. Ils étaient assez habiles. On arrivait à ménager des points de vue entre deux arbres qui ne dévoilaient pas tout le jardin, mais une partie précise du jardin et avec beaucoup de poésie.
On était obligé de se promener. C'est une des bonnes choses de ces jardins, peut-on les appeler donc les jardins paysagers?
Oui, paysagers, oui. Mais c'est effectivement le terme qui a prévalu. Mais on a eu jardin à l'anglaise. On a eu aussi un terme qui faisait penser à des folies. Parce que ces jardins, la nature était effectivement la principale actrice, si je puis dire ça, mais on ménageait des coins avec des petites folies, avec des chinoiseries, des petits ponts, des petites grottes, voilà, qui créaient des lieux de repos où l'on pouvait séjourner dans ce parc, non seulement s'y promener, mais s'y arrêter, méditer, c'était une autre attitude vis-à-vis du parc. C'était un prolongement de l'habitation, mais aussi dans des moments de calme et de repos.
Parce que c'est il y a donc ce jardin paysager, mais qui tient compte de la lumière, du soleil.
Oui, voilà. Ça, c'est
de tous les éléments.
Oui, voilà.
Même du vent.
Voilà, c'est peut-être là où le peintre entre en jeu, parce qu'en fait, tous les éléments étaient pris en compte et on jouait avec, bien sûr, le lever du soleil, le coucher du soleil qui amène sur, par exemple, une pièce d'eau, des reflets tout à fait irisants et très beaux. On jouait avec les ombres des nuages quand le temps était un petit peu plus mouvementé, sur des gazons extrêmement bien entretenus. On jouait avec le mouvement des arbres. Tout était pris en compte pour faire que ce jardin anglais soit animé et plaisant.
Alors, s'il y avait l'œil, il y avait également l'odorat, parce que chez eux, c'était très important également.
Oui, il y avait dans ces jardins anglais, il y avait la reine, il y avait une reine qui était la rose. En fait, la rose était vraiment la fleur qui a été pour les Anglais le symbole du jardin anglais. Et ces roses, effectivement, étaient mises en valeur de différentes manières, soit dans des roseraies assez un petit peu organisées, soit sous des serres, soit près des charmilles, soit dans des massifs, au pied de certaines descentes de terrain, puisqu'on utilisait tous les mouvements du terrain. Et bien sûr, souvent près de la maison pour que de la terrasse, on puisse avoir ce parfum extraordinaire des roses anglaises qui sont évidemment la fleur de prédilection de ces jardins.
De ces jardins, donc, et aussi bien grimpantes, comme vous le dites, d'où l'architecture aussi intervient pour faire grimper certaines plantes.
Oui, voilà. Des tonnelles, la rose pouvait être effectivement dans des plates-bandes ou elle pouvait aussi se trouver sur des tonnelles qui elles-mêmes constituaient une sorte de protection ou de cheminement sur les bas-côtés du jardin. Il y avait les fleurs qu'on pouvait couper, il y avait les fleurs qu'on ne coupait pas, il y avait tout ça était... Par contre, il y a quand même il y avait une certaine éthique par rapport à ce jardin. Effectivement, il y avait les fleurs qu'on pouvait mettre en bouquet, qu'on avait la permission de couper. Et puis, il y avait des fleurs qui, elles, étaient destinées à la beauté pure et simple du jardin et qu'on entretenait, mais qu'on ne coupait sous aucun prétexte.
Made me freeze.
Sur Couleur FM 97.1, avec Suivez le guide, les jardins anglais et Elisabeth qui nous promène à travers ce beau parterre, nous venons d'entendre Alfred Deller dans Sweeter Than Roses de Henri Purcell. Les dates 1659-1695. Alors Elisabeth, la priorité est accordée donc à l'aspect naturel du paysage anglais, même si l'homme intervient pour l'ensemencement des graines et la composition des couleurs, il faut entretenir l'illusion de la prédominance de la nature.
Oui, tout à fait, c'est dans cet esprit qu'est pensé le jardin anglais, avec des pelouses et des chemins agrémentant le jardin, où des pelouses, on ne flâne pas sur les pelouses, on flâne toujours à l'extérieur des gazons qui sont extrêmement bien travaillés. Ces gazons qui doivent être semés de manière très serrée et qui doivent rester propres, courts et bien verts. C'est vrai que les pelouses anglaises ont une réputation à tenir. Et ces pelouses, ces espaces de gazon anglais très, très ras mettent en valeur les bosquets, les massifs de plantes, parfois des plantes hautes qui retombent sur ces gazons, et c'est ça qui est très joli. Les fleurs qui viennent se pencher sur le gazon, c'est vraiment de très belles vues, et on comprend que des peintres aient été séduits par ce genre de paysage.
C'est un genre justement avec ce gazon très vert qui donne qui borde toutes les couleurs, les massifs remplis de couleurs et de plantes différentes.
Oui, la variété des plantes, mais aussi justement la beauté des roses, puisque la rose est, comme nous l'avons dit, la rose est vraiment la fleur fétiche des Anglais, si je puis dire, et avec des rosiers grimpants ou des rosiers aux fleurs odorantes, et tous très florifères, et de préférence dans des tons suaves, blancs, roses ou jaunes. Le spécialiste du rosier anglais, toute catégorie depuis les années 50, est sans aucun doute David Austin, qui a réussi le parfait mariage entre variété ancienne et moderne. Mais n'oublions pas que la région lyonnaise a compté beaucoup de rosieristes, en particulier la famille Guillot, dont l'ancêtre a créé la première rose hybride, la première rose moderne. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus l'année, mais Lyon a accueilli un très grand congrès international sur les roses. Et La roseraie du parc de la Tête d'Or est, au mois de juin est une merveille.
C'est sublime. Oui,
voilà,
oui.
C'est un lieu de promenade à ne pas manquer.
Et, mais tout comme Versailles a été un modèle de jardin à la française, existe-t-il un jardin de référence pour ces jardins à l'anglaise ? Y a-t-il la même chose ?
Eh bien oui, il y a un jardin qui peut faire référence, c'est celui d'Ermenonville dans l'Oise. Celui-ci nous intéresse, j'allais dire, à double titre. D'une part, le marquis de Girardin, son propriétaire, fut le premier en France à créer un jardin de style anglais au début des années 1760. Il tire parti de la nature marécageuse du terrain situé devant le château pour aménager un grand lac entouré d'essences d'arbres qui confortent la dimension horizontale du paysage. Et en contrepoint, il plante sur l'île des peupliers qui mettent en valeur une verticale. On joue avec les lignes, hein, horizontale, verticale. Et d'autre part, ce parc est dédié à Jean-Jacques Rousseau, mort à Ermenonville en 1778, et qui dix ans auparavant séjournait et se mariait à Bourgoin. En fait, il était sur la fin de sa vie déjà quand il est passé à Bourgoin. Il se sentait un peu torturé. C'était pas une période très facile pour Jean-Jacques Rousseau. Mais du coup, eh bien, le parc d'Ermenonville lui a été dédié. Et ce parc, il s'étend de part et d'autre d'une petite rivière qui s'appelle la Launette, la grotte des Naïades, la cascade du temple de la philosophie, l'hôtel de la rêverie, le banc des mers sont des étapes incontournables de la promenade. Le visiteur peut aussi y voir la cabane du philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui, sur ce site, trouva toutes les justifications à son aspiration de retour à une vie naturelle, et l'apaisante île des Peupliers abrite aujourd'hui son cénotaphe, c'est-à-dire son tombeau, mais sans ses cendres. Voilà, donc c'est un parc qui est totalement dans l'esprit de ce qu'on vient de découvrir, avec à la fois une île, à la fois des petites étapes pour méditer, philosopher, voilà, et dédié à Jean-Jacques Rousseau.
Vous nous avez rapproché de Lyon avec les roses et le parc de la Tête d'Or à Lyon, qui est remarquable, qui est reconnu comme un parc remarquable. Le parc de la Tête d'Or, y a-t-il d'autres lieux que vous pourriez nous conseiller à aller visiter ?
Oui, alors, ce style de parc du 19e siècle a souvent été associé à des stations thermales. Les stations thermales ont souvent, les gens ont besoin après leurs soins d'aller se promener. Et on trouve par exemple à Uriage-les-Bains un parc thermal qui est tout à fait dans l'esprit de parc à l'anglaise. On a le Clos des Chartreux à Tulin qui est un parc public qui est aussi dans ce style-là. On peut parler du parc du Clos Jouvin à Jarry, et là qui a été fait par des paysagistes lyonnais, les pères et fils Luizet. Et c'est une occasion pour dire que effectivement ces parcs à l'anglaise ont souvent fait la réputation de paysagers, d'architectes, enfin architectes non, disons peintres paysagers, nous étions sur la peinture et la poésie. Et en particulier les frères Buller qui ont fait le parc de la Tête d'Or à Lyon. Et là, eh bien, pour le Clos Jouvien, c'était à Jarry que ces deux paysagistes ont travaillé. Et il y a le parc du château de Moidières aussi qui est un petit peu dans le même style. Et là, bien sûr, animé avec des animaux de notre région. Donc ça offre un attrait supplémentaire.
Parce que justement, au château de Moidières, on peut se promener de longs moments et à chaque fois on découvre un nouvel aspect du paysage, évidemment avec l'animal dedans ou les animaux qui correspondent à ce parcours. Et là aussi nous avons les biches et les pelouses qui sont très très importantes, que l'on peut voir dès la terrasse du château.
Oui, voilà, et c'est aussi un parc qui est intéressant à fréquenter tôt le matin ou un peu en fin d'après-midi, parce que justement les animaux sortent, se montrent, on voit un peu cette vocation aussi que peut avoir un parc paysager d'abriter des êtres vivants à l'abri des regards, dans une intimité qui ne nous est pas autorisée. On les laisse dans leur milieu propre, et c'est bien aussi que l'homme se retire parfois pour laisser le parc à des animaux. Je trouve ça très
beau. C'est important. Et le parc de la Tête d'Or a également ses animaux.
Oui, c'est un petit peu plus organisé, un peu plus voilà. Et des animaux exotiques, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment les grandes serres, c'est aussi ces allées sinueuses, ces prairies. Alors là, par contre, qui sont possiblement à la disposition du public, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Angleterre, enfin si, en Angleterre parfois, mais tout ça est bien réglementé quand même en Angleterre, parce que voilà, l'entretien du gazon, c'est quelque chose de très c'est très particulier. Et bon, on cadre un peu quand même le cheminement des visiteurs quand on est sur ces jardins.
Et donc ces jardins à aller voir, je suppose, nous sommes en décembre maintenant, il faut attendre les meilleurs moments, c'est le printemps.
Au printemps, il y a des crocus, tout dépend des plantations qui ont été faites, mais tout ce qui est en sous-bois est très intéressant déjà, tout ce qui est en bulbes, les crocus, les narcisses, tout ça, c'est très joli. Et puis bien sûr, juin, c'est le mois idyllique. Après, l'automne offre d'autres charmes avec la chute, avec des teintes différentes, avec bien des feuilles au sol, enfin, bon, une ambiance, chaque saison a son ambiance, c'est sûr, et chaque heure de la journée a son ambiance, et pas les mêmes personnes qui fréquentent aux mêmes heures, c'est vraiment intéressant.
Mais ce n'est pas, certains parcs sont fermés l'hiver, non ? Ou c'est une idée que je me suis faite. En tout cas, le parc de la Tête d'Or, on peut s'y promener quand on veut. Oui. Le parc le château de Moidières, je pense qu'ils ont un moment de fermeture, mais pour le reste.
Oui, voilà, en tout état de cause, il faut toujours se renseigner avant de s'y rendre, parce que parfois il y a aussi des travaux nécessaires pour l'entretien de certaines parties du parc ou autres. Donc il vaut mieux toujours se renseigner avant de se rendre sur un lieu touristique ou non, enfin en tout cas ouvert au public. Ça peut parfois être les heures peuvent varier en fonction
également
des saisons.
Voilà, oui. Elisabeth, nous arrivons au bout de nos jardins anglais. Est-ce que l'on peut en quelques points résumer ce que nous avons traversé tout au long de notre parcours?
Oui, tout à fait. Donc, ces jardins anglais ont une conception irrégulière par rapport ou faussement irrégulière par rapport à ce que nous avions vu au XVIIe siècle avec les jardins sur le modèle de Versailles. Que signifie irrégulier? Chemin tortueux, végétation en apparence non domestiquée, donnant une impression naturelle. Des accidents de terrain, des vallons, des pentes sont conservés et exploités. On y dénote la présence d'arbustes, de fourrés, d'éléments architecturaux participant à sa décoration, ce qu'on a pu appeler aussi les fabriques de jardin, les rochers, des statues, des bancs. des associations de diverses espèces ornementales. Les formes et les couleurs des végétaux sont variées. Les pelouses et les chemins agrémentent le jardin, un site à flâner. L'itinéraire n'est pas du tout balisé. La promenade dans un jardin à l'anglaise laisse une grande part de surprise et de découverte. Pas d'allée rectiligne guidant les pas du promeneur, mais plutôt une sorte d'errance poétique. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est que, en fait, ce jardin à l'anglaise ne doit pas avoir de rupture brutale avec l'environnement. Les jardins à l'anglaise essayent de se fondre dans l'environnement d'arrière-plan. Pour ça que dans notre région, comme on a parfois des environnements de montagne, eh bien on a des jardins à l'anglaise qui ont en fond des montagnes, et ça leur donne en plus une valeur supplémentaire, un relief particulier. Et on essaye d'avoir des points de vue qui embrassent tout l'horizon jusqu'au paysage final. Voilà.
Parce que grâce à cela, comme vous l'avez dit, au fil des années, de l'année, il y a un changement de couleur, il y a un changement d'aspect, et tout ça, et de lumière évidemment, et donc tout cela met en valeur son propre parc que l'on a.
Oui, voilà.
Dans cet écrin, on peut dire.
Oui, tout à fait. Quand on a effectivement un jardin qui est comme ça, qui a déjà un côté naturel et qui se prolonge tout à fait naturellement dans l'arrière-paysage qui lui aussi est d'une très belle nature, eh bien, ça amplifie le sentiment de bien-être qu'on peut ressentir dans ce jardin à l'anglaise. Et moi, je retiendrai vraiment ce terme d'errance poétique. On descend au jardin et on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, on ne sait pas trop les émotions qu'on va ressentir, mais on part un peu à l'aventure et tout nous conduit à ne pas rien planifier, à se laisser porter par le cadre et les plantes.
Voilà, mais c'est magnifique. Nous terminons notre troisième jardin, station de jardin. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous, William. Et Laurent,